Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rencontre, 30 minutes de discussion, de partage, d'échange sur Radio G, 101.5 FM, radio-g.fr et en DAB+. Aujourd'hui, cinquième épisode de Rencontre avec Antoine Picard, ingénieur de par ses études et aujourd'hui chef de projet dans le monde du jeu vidéo pour le studio Dontnob. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Comment ça va?
Eh ben ça va.
Merci d'avoir accepté de venir dans Rencontre sur Radio G aujourd'hui.
Bah écoute, un plaisir.
Alors Antoine, on va commencer par être honnête avec nos auditeurs et auditrices, puisque je ne suis pas venu à toi dans cet épisode, mais plutôt tu es venu à moi, puisqu'on enregistre dans le studio de Radio G. Alors je vais donc éviter la question que je pose à chaque début d'émission sur le lieu, et on va passer directement dans le vif du sujet. Antoine, est-ce que tu peux nous présenter ton métier?
Bien sûr. Oui, effectivement, tu as dit que j'étais chef de projet donc chez Dontnob, qui est une entreprise basée à Paris. Et ça, c'est le nom un peu que j'utilise quand j'en parle, parce que officiellement sur mon contrat, c'est marqué associate producer.
Ok. Voilà. Un nom un peu anglais.
Les études que j'ai fait aussi, c'était des études de producteur. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que c'est? C'est plus ou moins chef de projet comme on peut avoir dans n'importe quelle boîte d'informatique ou même des chefs de projet en événementiel ou en ce que tu veux. Sauf que là, j'ai des compétences et des connaissances propres au monde du jeu vidéo qui sont, comme le jeu vidéo, c'est assez récent, mine de rien, en termes des entreprises qui créent des jeux vidéo, c'est relativement récent, on va dire. Et du coup, les métiers sont pas forcément connus, les technologies sont pas forcément connues de tout le monde et sont pas du tout apprises dans les écoles. Tu disais que j'avais fait une école d'ingé, mais ce qu'on utilise en jeu vidéo, j'ai quasiment jamais appris en école d'ingé, à part j'ai fait une petite option justement parce que ça m'intéressait, mais sinon dans le cursus classique.
On y reviendra justement sur sur toi. Donc ton métier, il te permet donc de tu participes à la création de jeux vidéo, mais tu le crées pas toi-même.
Non, moi en soi, je ne mets jamais rien, je ne crée jamais rien dans le jeu, mais par contre, je gère des gens qui vont aider à créer ce jeu. Ça fait quelques années que j'y suis, donc j'ai eu pas mal de personnes, mais ça met dans mes équipes. Mais j'ai eu aussi bien des personnes artistes, des personnes développeurs, et je pourrais avoir plein d'autres types de métiers dans mes équipes.
Tu peux gérer n'importe quel type de métier dans le monde du jeu vidéo.
C'est ça. Après, il y a des métiers avec lesquels je suis plus ou moins à l'aise de par mon expérience, parce que maintenant, je commence à connaître certains métiers. Si demain je dois
être... Parce qu'au départ, tu ne connaissais pas ces métiers-là.
Non, pas du tout. Ouais, pas du tout. Donc j'ai fait mon école d'ingé, et en sortant de mon école d'ingé, j'ai travaillé chez Ubisoft, et c'est là-bas que j'ai beaucoup appris les différents métiers du jeu vidéo, que je ne connaissais pas plus que ça. Enfin, je connaissais un peu parce que je jouais aux jeux vidéo, et donc du coup, je voyais dans les génériques les noms des métiers, etc. Mais j'aurais été incapable de dire qui faisait quoi.
Et aujourd'hui, tu peux.
Et aujourd'hui, je peux.
Justement, vu qu'aujourd'hui, tu peux un petit peu. Alors, comment on crée un jeu vidéo?
Comment on crée un jeu vidéo? Eh bien, je vais te dire que ça dépend énormément de la taille de la boîte. Il y a des personnes qui créent leurs jeux vidéo tout seuls ou toutes seules. Et il y a des grosses boîtes comme on connaît, Ubisoft, Dontnod, Nintendo, etc., qui créent des jeux vidéo avec 300, 500, 1000 personnes. Enfin, il peut y avoir toute taille d'entreprise. Et donc, du coup, on va dire qu'en général, il y a soit une personne, soit un très petit groupe de personnes qui va arriver avec une idée très simple du jeu, qui va la présenter à la direction de l'entreprise ou autre pour leur dire ça c'est mon idée, et ensuite ils vont un tout petit peu agrandir l'équipe pour commencer à développer cette idée et voir un peu qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce que techniquement c'est faisable, est-ce que c'est intéressant pour les joueurs et les joueuses, etc. Et puis il y a plusieurs phases de prototypage, etc., avec des tests au fur et à mesure, et au fur et à mesure ça grandit jusqu'à atteindre une équipe ensuite quand on part en production, on appelle ça, où là on peut vraiment avoir des plus grosses équipes, et ça part sur plusieurs mois, plusieurs années. Pareil, ça dépend vraiment de la taille du jeu pour le coup, avec plein de
cordes. Et toi, t'interviens à quel niveau du coup? Là, t'interviens sur l'avant, le pendant, l'après?
Alors mon poste, je pourrais intervenir dès le début, parce que en fait dès le début ça peut le métier d'associate producer, il a vraiment plein de facettes, et je pourrais être amené, c'est pas ce que je fais pour l'instant, mais je pourrais être amené sur un début de projet à m'occuper d'aller chercher des financements et d'aller commencer à faire on appelle une roadmap, donc un calendrier très long terme de comment ça va se passer, projet du jeu, etc., et voir combien ça va coûter en fonction de combien de personnes on a besoin pour faire le jeu. Enfin, faire toutes les estimations budgétaires, de temps et de recrutement aussi potentiellement. Donc ça peut arriver dès le début, très rapidement.
Et là, du coup, toi, tu t'occupes de quoi actuellement?
Alors moi, plus précisément, je suis sur ce qu'on appelle les équipes cross-project. Donc en fait, c'est des équipes qui...
Beaucoup de noms anglais dans cette émission.
les équipes interprojets qui en fait créent des outils pour créer les jeux vidéo. C'est-à-dire okay. que
Donc tu crées pas directement un jeu vidéo avec tes équipes.
Non, c'est ça.
En fait, c'est comme ça permettre aux autres de faire, c'est ça.
C'est ça. C'est comme si t'avais des gens qui voulaient construire une maison. Et ben nous, on va construire le marteau, on va construire la bétonnière, on va construire le placo et l'isolation. Enfin voilà, tous les outils dont ils ont besoin pour créer le jeu vidéo et faire évoluer ces outils évidemment au fur et à mesure de leurs besoins. Mais voilà, on va créer des outils, on va leur apporter des conseils aussi sur potentiellement des solutions techniques. J'ai déjà travaillé avec des personnes qui sont plus dans la partie design, donc du coup qui vont apporter des solutions dans le design du jeu. Comment est-ce que les joueurs vont réfléchir à telle ou telle situation. Enfin voilà, c'est vraiment du support pour les personnes qui créent le jeu.
T'interviens pas directement sur le jeu, viens en aide aux personnes qui créent le jeu pour leur faciliter la vie. Finalement.
Exactement, c'est ça, pour leur faciliter la vie. Pour généralement c'est des tâches répétitives qu'ils ou elles vont être amenés à faire 10 fois par jour. Et ben là, j'ai une équipe qui va créer un outil pour que cette étape soit faite. Ils fassent un clic sur un bouton et hop, elle est faite 10 fois.
Et c'est parti.
C'est
fini. Et tu gagnes du temps.
Et ils gagnent du temps, ils gagnent de l'argent, ils gagnent de l'énergie. Enfin voilà, c'est tout bon pour tout le monde. Et une fois que c'est fait, s'ils sont 4 dans l'équipe, du coup tout le monde peut utiliser cet outil et c'est trop bien.
Et toi, tu gères des équipes de combien alors?
C'est pareil, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, je gère une équipe, on va dire, de 13 personnes.
D'accord.
Voilà, et on va dire, je co-gère ça avec une collègue qui est et ma supérieure hiérarchique et la chef d'équipe. Moi, je suis chef de projet et elle est chef d'équipe.
Ok.
Qui va plus s'occuper justement de tout ce qui est côté humain, de faire les entretiens régulièrement, de discuter avec eux aussi de comment ça va, etc.
Toi, tu vas plutôt être sur le concret du métier et elle va être sur le RH finalement, les ressources humaines un peu.
Ouais, c'est ça. Et puis elle a une forte compétence technique aussi de pouvoir faire de la veille, regarder qu'est-ce qu'il fait dans les nouveautés technologiques pour pouvoir potentiellement les intégrer à nos outils. Alors que moi, je vais vraiment être là pour les aider à organiser leur travail, les aider à savoir qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, mais aussi qu'est-ce qu'ils font dans une semaine, dans un mois, etc. Et puis, s'il y a des réunions à organiser avec d'autres gens, synchroniser tout le monde. S'il y a des infos, aller chercher les infos. Leur faire gagner du temps.
Ouais. C'est un gros travail de planning et de planification pour toi, mais aussi pour les autres, finalement.
Exactement. Et de communication aussi de ce planning et de...
C'est un gros boulot.
C'est pas mal de choses, ouais. Et ça, c'est moi en tant qu'asset producteur, mais on en parle souvent que chaque personne qui fait ce métier a une vision et un vécu un peu différent à chaque fois du métier. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que demain, si je change d'entreprise, je pourrais peut-être avoir besoin de réapprendre beaucoup de choses. Et c'est le métier qui veut ça. Et...
Alors justement, tu travailles aujourd'hui pour le studio Dontnod.
Ouais.
Je me suis trompé, j'ai dit Dontnod, je crois, au début de l'émission. Mais en fait,
ah, j'ai pas fait gaffe. Oui.
Est-ce que tu peux nous le présenter un peu, ce studio? C'est qui?
Ouais.
Quoi
alors c'est Dontnod, c'est un studio qui est basé à Paris. Ils sont connus, enfin on est connus notamment pour les deux premiers jeux qui sont Life is Strange, Life is Strange 1 et Life is Strange 2. Récemment, il y a eu une troisième sortie et une quatrième sortie aussi, selon quand est-ce que vous écoutez l'émission. Mais ce n'est pas nous qui les avons faits, c'est pas nous qui avons les droits, donc du coup ce n'est pas nous qui les avons faits. Mais on a fait le 1 et le 2, on a fait également Vampire, et plus récemment ce qu'on a sorti c'est Banishers, Harmony et puis Jusan aussi. Un jeu d'escalade qui a peut-être celui qui est le plus connu, on va dire, je pense. Donc voilà, c'est nos trois sorties les plus récentes et on a annoncé bientôt qu'on allait sortir un jeu qui s'appelle le Bloom and Rage. Et donc du coup, on est en studio d'environ 300-350 personnes, aujourd'hui en tout cas. Et voilà, et donc on a pour habitude, pour ceux qui du coup qui connaissent pas ces titres, de faire des jeux qu'on appelle narratifs, avec une forte composante sur l'histoire, sur qu'est-ce qui va se passer entre les personnages, etc. Même Life is Strange, il y a des choix à faire qui vont vraiment impacter ton histoire en fonction de si tu fais des choix qui vont plaire ou pas à telle autre personne, sur le futur, ça va faire évoluer ton histoire.
Ça va impacter l'histoire et ça va faire évoluer le tout. Donc ça, c'est ce que Dontnod peut faire. Mm-hmm. Toi, t'as participé à plusieurs projets, du coup, est-ce que t'as...
Ouais, du coup, de loin, entre guillemets, dans le sens où j'étais sur des équipes qui aidaient à construire le jeu qui sont... j'ai été sur Banishers, sur Harmony et sur Jusan. Un tout petit peu sur Bloom and Rage qui va sortir là, et c'est tout. Moi, quand je suis arrivé, il y a un jeu qui s'appelle Twin Mirror qui venait tout juste de sortir. Donc du coup, je suis arrivé juste sur les derniers mois, donc... considère pas que j'ai aidé dessus, mais
mais voilà. Là sur les autres tu as
là,
pu aider
là sur ces trois derniers là, ouais, j'ai pu aider, j'ai accompagné les équipes là-dessus, ouais.
Et c'est pas dur, parce que du coup là je le dis, parce que on en parlait juste avant, je vais pas te poser la question de savoir sur quoi tu travailles actuellement puisque tu n'as pas le droit d'en parler, tenu au secret professionnel. Mais c'est pas dur justement de pas pouvoir dire aux gens bah moi je travaille sur tel jeu, il va y avoir tel jeu qui va sortir ou
je
me disais que c'était un peu
après je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de travailler sur des choses secrètes et de voir comment ça évolue et que quand les gens ont la surprise entre guillemets du jeu c'est là que c'est plus agréable tu vois, si on te dit que dans 3 mois il y a tel jeu qui sort, enfin dans 3 ans il y a tel jeu qui sort, tu vas l'attendre et si t'es super excité par ce jeu, bah au bout de 3 ans tu vas peut-être l'avoir oublié, tu vas peut-être passer à autre chose, alors que là moi je trouve ça plus intéressant d'avoir un peu ce secret je trouve ça intéressant. Voilà.
Quand tu travailles sur des jeux, est-ce que tu connais la fin des jeux?
Alors,
est-ce que tu sais un peu ce qui va se passer dans le jeu, ou est-ce que toi, vu que t'es un peu extérieur, tu n'as pas connaissance?
Vu que je suis un peu extérieur, généralement j'ai pas connaissance. Après, je le voulais, si je prenais le temps, je pourrais en avoir connaissance, parce que par exemple, on a un outil qui est utilisé pour faire de la narration, pour écrire l'histoire, etc. Donc du coup, si j'utilise, parce que moi aussi j'ai accès à cet outil en soi, même si c'est pas moi qui l'utilise, je peux y avoir accès, et donc du coup je peux aller voir toute l'histoire, etc. Après je suis pas généralement j'ai autre chose à faire que d'aller me balader dans les fichiers de l'histoire du jeu, mais en théorie je pourrais, mais je ne suis pas amené à le faire.
Donc tu ne te spoiles pas et tu préfères attendre et pouvoir jouer au jeu
en plus? Exactement. Après généralement on a ce qu'on appelle des playtests. Donc c'est des tests du jeu, soit ça fait avec des personnes extérieures à l'entreprise, soit on fait des playtests internes, et donc là du coup c'est vraiment que entre nous, où il y a une équipe de projet qui dit on a une nouvelle mouture de notre jeu avec des nouveautés, si vous voulez la tester, on organise ça et voir qui peut la tester. Donc ça m'arrive parfois de tester les jeux quand c'est posé, mais voilà.
De repasser manette en main.
C'est ça. On dit souvent, tu travailles dans le jeu vidéo, tu dois jouer toute la journée, alors que pas du tout.
Ordi toute la journée.
Par contre, je suis sur un ordi toute la journée, mais sur mes heures de travail, le temps que je passe à jouer un jeu vidéo, ça doit être une heure par mois grand max, quoi.
On va on va se plonger, parce que pour se plonger dans un univers vidéoludique, les créateurs et créatrices de jeux vidéo, ils passent par la musique. Nous aussi, on va se plonger dans un univers, ton univers musical, Antoine, puisque tu as choisi une musique à nous partager. Alors, je te laisse nous présenter, qu'est-ce que tu as choisi?
Quand tu m'as demandé de choisir une musique, c'était très difficile pour moi parce qu'il y a plein de groupes que j'adore, et j'ai la chance que deux groupes que j'adore ont fait une musique ensemble. Il s'agit donc de Electric Callboy, qui est un groupe de métal allemand, assez excentrique et assez barré, on va dire. Ils font des choses très originales même dans leurs clips, et ils ont fait une collaboration donc avec Baby Metal, qui est là pour le coup un groupe de trois japonaises mais qui font aussi du métal, et donc ils ont fait une chanson qui s'appelle Ratata ensemble.
On écoute ça tout de suite. Every night when the sky turns red up above, I feel the beat in my veins and I'm searching for love. You know that hips don't lie and leave you hypnotized. Just give me one more try and make you feel that vibe. When you go, my body and a weapon. We're gonna hit the floor. We're gonna make it happen.
Rencontre sur Radio G 101.5 FM.
En compagnie d'Antoine Picard, donc chef de projet chez Dontnod, et qui vient de nous faire écouter Ratata de Baby Metal et Electric Callboy. Merci pour ce partage.
Ben de rien, écoute, j'espère que je n'ai pas trop choqué d'oreilles sensibles.
Non, je te rassure, pas du tout.
Ça va alors.
Antoine, pour en arriver chez Dontnod, t'as fait plusieurs choses avant. On a dit t'as fait des études d'ingénieur notamment. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'en es arrivé à travailler, être chef de projet associé de producteur chez Dontnod?
Yes, du coup j'ai fait un bac scientifique, voilà, maths, physique, tout ce que assez classique. Et après je suis parti donc dans une école d'ingénieur qui n'existe plus vraiment, qui s'appelait Listia à Angers.
Ok.
Sur le campus de Belbeil, qui aujourd'hui est Polytech Angers, voilà, qui a rejoint le réseau Polytech 2 ou 3 ans après que je sois parti, quelque chose comme ça. Et donc en dernière année, j'avais pris une option réalité virtuelle. Et j'y avais rencontré une personne qui, lui, était parti chez Ubisoft, donc qui est une des plus grosses entreprises de jeux vidéo, voire la plus grosse entreprise de jeux vidéo française. Donc voilà, et je l'ai rencontré, on a discuté, il m'a dit, bah écoute, il y a un programme pour rentrer en stage de fin d'études là-bas. Donc évidemment, il y a des entretiens, des tests, etc. Comme c'est une très grosse boîte, ils sont très sélectifs, mais j'ai passé tous ces entretiens et j'y suis rentré. Donc j'ai réussi à rentrer chez Ubisoft, merci. Et donc pendant 6 mois, j'ai bossé sur le jeu Just Dance, qui est un jeu de danse, voilà, c'est ceux qui connaissent pas. Et donc du coup pendant 6 mois, j'étais développeur dans cette entreprise.
Donc tu codais du jeu vidéo.
Donc je codais du jeu vidéo pendant 6 mois. Au bout des 6 mois, je me suis commencé un peu à me poser la question de est-ce que j'avais vraiment envie de faire ça en fait. Et donc on m'a proposé un CDD de 6 mois supplémentaires pour que je vois si ça me plaisait toujours ou pas, et puis que je puisse me faire une idée. Et donc du coup j'ai pas mal discuté avec
toujours
dans le développement, ouais. Pendant, je suis resté 6 mois de plus exactement au même poste.
Toujours
sur Just Dance.
Ça permettait peut-être aussi d'aller au bout des choses.
Ouais, il y avait certaines choses sur lesquelles j'avais avancé et que je laissais un peu en cours, mais c'était aussi un moment pour moi pour discuter avec d'autres corps de métier, d'autres personnes qui faisaient d'autres jobs, et j'ai pu discuter justement avec des associés de producteurs, des producteurs, etc. De leur métier, de qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Et ça m'a beaucoup plus intéressé que le métier de développeur. Et donc du coup, au bout de mes 6 mois de CDD, donc au bout d'un an que j'étais arrivé chez Ubisoft, j'ai pas renouvelé et je suis parti. Donc j'ai eu quelques mois de chômage et je suis rentré en septembre de la même année à l'ISART, qui est une école à Paris, vers Bastille. Et donc du coup, qui est une école spécialisée dans le jeu vidéo. Il y en a pas encore. Il y en a de plus en plus qui ouvrent parce que c'est un secteur
qui monte, ouais.
Voilà. Et donc du coup, c'est une école qui est spécialisée dans les métiers du jeu vidéo. Donc ils ont un cursus art, mais art spécial jeu vidéo, un cursus développeur spécial jeu vidéo, musique aussi spécial jeu vidéo, et un cursus chef de projet, donc associé de producteur ou producteur spécial jeu vidéo. Donc voilà. Et c'était un cursus dans lequel on pouvait rentrer seulement avec un bac plus 5 ou équivalent. Donc, comme j'avais fait une école d'ingénieur, c'était nickel. Et donc pendant un an, j'ai appris à faire gérer une équipe. Et en fait, c'était assez intéressant d'avoir, pendant un an, on avait quelques cours magistraux, mais c'était surtout gérer un projet étudiant en fait, parce que on prenait les dernières années programmeurs, artistes, etc. Et ça créait une équipe et on développait un jeu pendant toute l'année. Pendant un an, on a créé un jeu sur, on va dire, les 3/4 de notre temps étaient dédiés à ça. Enfin, il y avait plein de petites équipes.
Toi, t'avais ta petite équipe.
Moi, j'avais ma petite équipe.
Tu créais ton jeu.
Voilà, c'est ça. Et donc, du coup,
il parlait de quoi ce jeu?
Il parlait de quoi? C'était un jeu multijoueur où en gros, tu étais, si je dis pas de bêtises, 3 contre 3, 3 équipes, enfin 3 joueurs d'une équipe contre 3 joueurs d'une autre équipe. Et le but du jeu, c'était de récolter le maximum de points, sachant que tu avais des pouvoirs. Il y en avait un infiltré dans chaque équipe adverse.
Ok. Ouais.
Voilà. Et c'était assez compliqué parce qu'on était un des premiers jeux à faire ça en ligne, parce qu'on voulait faire un jeu en ligne. Un peu comme League of Legends ou plein d'autres jeux, Overwatch, Valorant, tout ce que tu veux. Et donc du coup, ça n'avait jamais été fait encore dans l'école, donc du coup, ils ne savaient pas encore trop comment gérer toute la partie réseau, toute la partie internet, etc.
C'est un jeu qui est resté interne à l'école.
Qui est resté interne à l'école. Il est sorti publiquement et gratuitement sur une plateforme qui s'appelle itch.io, qui est une plateforme où il y a plein de jeux qui sortent généralement gratuits ou parfois 1 ou 2 euros, et c'est un peu un moyen de déposer comme ça tes projets étudiants ou tes projets perso que tu veux faire découvrir. Ça te coûte rien de le mettre dessus et c'est cool. Si jamais il y a des personnes qui veulent y jouer, ils peuvent, mais il y a beaucoup de setup à mettre en place, vu que déjà il faut être assez, il faut quand même mettre en place le serveur pour y jouer, etc. Et donc, mais il est disponible et il est sorti, et voilà, on a fait une présentation dessus, et du coup une partie de mes notes de diplôme était basée sur ma performance, moi, à avoir géré cette équipe pendant toute l'année. Et puis il y a des documents à rendre, plein de choses.
Donc tu t'es formé là-bas pendant un an.
C'est ça. Et après je suis rentré chez Dontnod.
Et après t'es rentré chez Dontnod.
Voilà, c'est ça. Par une connaissance de Just Dance chez Ubisoft, qui pendant que j'avais fait mon année d'école était partie d'Ubisoft elle aussi, et rentrée chez Dontnod. Et elle m'a dit bah écoute, je cherche quelqu'un pour m'accompagner dans mon équipe. C'est aujourd'hui toujours ma supérieure dont je parlais tout à l'heure, et également chef d'équipe. Et donc ouais, elle m'a recruté. Enfin voilà, j'ai passé quand même les entretiens, etc. Mais elle a glissé mon CV. Elle m'a fait
T'as un peu fait rentrer, quoi.
Elle m'a un peu fait rentrer, même si j'étais quand même dans le process classique. Oui. Mais
voilà. Est-ce que c'est un milieu où justement, il y a parfois des milieux comme ça où on dit tu rentres parce que tu connais un tel, ou parce que un tel t'as réussi à te faire rentrer. Est-ce que c'est un peu ça ou pas du tout? Ou là, c'est du pur hasard?
Non, on va dire que ça aide. Ça aide clairement d'avoir des connaissances dans le sens des relations, des personnes qui travaillent dans le jeu vidéo, si tu veux continuer à bosser là-dedans. Parce que c'est un petit milieu, c'est un milieu où beaucoup de personnes se connaissent, beaucoup de personnes discutent, surtout que la grande majorité, en tout cas en France, est à Paris. Et donc du coup, il y a plein de studios à Paris, tous les studios à Paris se rencontrent régulièrement. Pareil, les personnes partent d'un studio pour aller dans un autre, donc du coup, il y a des connexions qui finissent par se faire. Et donc ouais, tu peux, on va dire que c'est plus facile de rentrer dans une boîte si tu connais déjà quelqu'un dans cette boîte-là. Mais généralement, après, c'est pas du tout impossible, fortement faisable aussi, de rentrer sans connaître qui que ce soit. Enfin voilà, il y a toutes les voies, on va dire.
Ok, très bien. Si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui a envie de se lancer dans ce métier, dans le jeu vidéo, tu dirais quoi?
Je dirais quoi? Déjà, je dirais qu'il faut vraiment être passionné, dans le sens où il faut vraiment, comme c'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est pas des méthodes et des compétences qu'on apprend à l'école dans le milieu classique. Donc vraiment, faut se former tout seul, de son côté, apprendre à potentiellement. Moi, ça m'arrive parfois de me faire mes petits projets moi-même tout seul. Bon, vu que j'ai un diplôme d'ingé, c'est un peu plus facile de savoir coder. Mais il y a plein d'outils aujourd'hui pour créer son propre jeu sans savoir coder, ou un strict minimum. Donc moi, ce que je peux conseiller déjà, c'est ouais, vraiment de s'y intéresser, dans le sens de mettre les mains dans un jeu vidéo et de créer un jeu vidéo, de regarder ce qui se fait, et puis bah de contacter des personnes qui font ce métier. Contacter moi, par exemple, mais pas que, pour avoir un peu une vision de qu'est-ce que c'est de l'intérieur, être producteur ou associé de producteur. Ouais, je pense que c'est surtout ça. Aujourd'hui, niveau études, il y a plein de moyens. Moi, j'ai fait une école d'ingé, puis un diplôme supplémentaire, mais en fait, il y a plein de moyens. J'ai des collègues qui ont fait Sciences Po avant de venir.
OK.
J'ai des collègues qui ont fait plus des études en médecine et qui ensuite se sont réorientés là-dedans. Enfin, okay. En fait, il y a pas de voie, c'est multiple. Ça. Et puis après, on a de plus en plus. Il y a quelques producteurs ou cette producteurs qui se spécialisent dans certains métiers. Et donc du coup, il y a des personnes qui ont travaillé pendant quelques années en tant que artiste. Il y a plein de types d'artistes, mais voilà, en tant qu'artiste dans le jeu vidéo, et qui ensuite vont se spécialiser pour être associé de producteur de personnes qui vont être artistiques. Donc du coup, c'est des personnes qui vont que gérer des personnes artistes. Mais voilà, ça peut être aussi une voie, c'est de commencer par un métier de développeur, de programmeur, de musicien ou autre, et ensuite d'évoluer en tant que chef de projet là-dedans.
Et toi, dans l'avenir, tu te vois toujours associé de producteur? Tu te vois autre chose?
C'est une bonne question, surtout en ce moment. Voilà,
je pose que des bonnes questions.
Tu poses des très bonnes questions. Et au bon timing en plus, parce que là, voilà, en ce moment, le secteur du jeu vidéo est un peu en crise. Chez Dontnod, mais pas que chez Dontnod, et pas que en France non plus. Vraiment, c'est un truc un peu mondial. Donc du coup, moi, si je le pouvais, j'aimerais bien rester dans le jeu vidéo. Potentiellement, peut-être dans des plus petites boîtes, plus dans des boîtes de 50 personnes maximum. Et le problème, c'est que donc j'habite à Angers, et à Angers, il n'y a pas d'entreprise du jeu vidéo.
Toi, tu télétravailles.
Donc là, voilà, je suis chez Dontnod, j'ai la chance, on a la chance chez Dontnod de pouvoir être en 100% télétravail si on le souhaite. Ils ont mis ça en place pendant le Covid, et ils ont gardé ça après le Covid. Chaque personne a le droit de soit se mettre en télétravail tant qu'on reste en France, soit il y a aussi des locaux à Paris, évidemment. Et donc du coup, moi aussi, moi je peux aller dans les locaux de temps en temps, et les personnes qui sont habituées habituellement dans les locaux peuvent aussi de temps en temps faire du télétravail. T'as soit l'un, soit l'autre. Mais moi, du coup, ouais, je suis en télétravail à Angers, donc du coup, je recherche aussi. Enfin, si je voulais changer de boîte, je devrais aussi trouver un travail qui fait du 100% télétravail ou en grande majorité. Après, il y a quelques boîtes, je sais, vers Nantes ou vers Rennes, pas non plus à côté, mais ça peut se faire. Donc, j'aimerais bien rester dans le jeu vidéo. Après, j'ai toujours eu d'autres intérêts plus artistiques ou autres, donc je me verrais bien potentiellement plus gérer des projets dans l'événementiel ou dans la culture ou autre, mais toujours dans la gestion de projet en tout cas. Le jeu vidéo, j'aimerais bien, mais compliqué. Mais voilà, je ne me ferme pas de porte, on va dire.
Bah, on croise les doigts alors que tu trouves ce que tu veux. J'avais envie de finir, Antoine, sur un... Parce qu'on parle de jeux vidéo. J'ai envie de savoir quel était ton jeu vide préféré, toi.
Ah là là, quelle dure question.
Et je pose des questions et pertinentes et difficiles.
Et ouais, là.
Niveau est
haut. C'est un professionnel, monsieur.
Ah bah, c'est...
Qu'est-ce que je dirais? Je crois que je dirais Hollow Knight. Hollow Knight, qui est un jeu, comment expliquer ça? C'est un jeu de plateforme où tu contrôles un espèce de petit insecte un peu scarabée. Et donc, en fait, tu dois découvrir le monde. Tu sais pas ce que tu viens faire là. Tu sais pas quel est ton but, etc. Mais en fait, tu as beaucoup d'exploration et tu as très peu de... Déjà, tu as quasiment pas de dialogue. Et en fait, tu comprends toute l'histoire et tu comprends tout ce que tu dois faire juste par l'environnement. Et c'est un jeu qui est très beau visuellement, qui a des super musiques aussi. Donc voilà, et qui est facilement, on va dire, assez facilement fini dans l'histoire principale, et après t'as plein d'autres challenges tout autour, des ennemis supplémentaires à battre, etc. Et du coup il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts, et je le trouve très très bien.
Eh ben merci pour ce beau partage.
Ben,
et puis merci beaucoup d'être venu ce soir, Antoine Picard.
Mais merci à toi, Nicolas.
Sur Radio G dans Rencontre. Eh ben merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager et podcaster cette émission sur radio-g.fr ou sur Spotify. On se retrouve le jeudi 28 novembre à 13h pour une nouvelle rencontre, et demain à 19h pour C'est le week-end. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine, topette.
Walking in the midnight sun.